Vous reprendrez bien un peu de science-fiction. Aujourd'hui, c'est fiction. La fuite. Urbain Lazare est maintenant un fugitif, poursuivi par toutes les polices du monde. Il a réussi à fuir avant que les forces de l'ordre investissent son labo. Lucius, son père, lui est resté dans ce labo, à attendre docilement son arrestation. Il n'a opposé aucune résistance. Il a même décrété fièrement qu'il était l'instigateur de toute cette opération et qu'il en assumait toutes les conséquences. Que son fils était le jouet de son emprise et n'avait été mis au courant qu'au dernier moment. Était-ce une stratégie pour permettre à ce dernier de prendre de l'avance dans sa fuite ? Ou était-ce un dernier sursaut d'orgueil ? Je pencherai plus pour la deuxième explication. Toujours est-il que le portrait d'Urbain est affiché un peu partout. Il y est spécifié qu'il est recherché pour trafic d'organes et expérimentation sur des humains. Dans la description, il est indiqué qu'il doit être accompagné d'un placato. Mais bon, rien ne ressemble plus à un placato qu'à un autre placato. Toutefois, il n'est fait aucunement mention du caractère, comment dire, hors norme du robot. Parce que oui, le transfert a fonctionné et l'esprit d'Ézéchiel, son garçon, est implanté dans le robot. Le garçon a remarquablement encaissé le transfert. Ce n'était que le troisième essai de cette procédure et les deux premiers ne s'étaient vraiment pas bien passés. Dans la panique du moment, Urbain n'avait pas pris le temps de vérifier si tout s'était bien déroulé. Et il sera soulagé de voir un peu plus tard que tout l'esprit de son fils aura bien été transféré. Celui-ci restera toutefois mutique, ne s'exprimant que de rares fois. Ils établiront tous les deux un langage gestuel pour se comprendre mutuellement. Et le comportement du garçon montrera une bonne stabilité émotionnelle au vu de ce qu'il aura enduré, bien sûr. Il n'empêche qu'Urbain doit fuir et trouver un coin pour vivre en toute tranquillité avec Ézéchiel. Il va trouver refuge dans la communauté libre des plaques de Plivice en Croatie. Micro-état autoproclamé qui accueille tous les possesseurs de placato qui auront refusé de s'en débarrasser et les auront extraits du réseau pour qu'ils ne soient pas éteints. Quoi de plus logique après tout ? Noyer son robot dans la masse d'autres robots, tous identiques, dans un contexte libertaire où personne ne lui demandera de se justifier. Au bout de quelques mois, les habitants de la communauté vont commencer à se poser des questions sur le comportement du robot. À son entrée, il a expliqué à son fils qu'il ne faudrait pas attirer la curiosité des autres membres. Il lui a dicté une conduite à tenir, ce qu'un placato pouvait faire ou ne devait surtout pas faire. Mais demander une telle discipline à un gamin de 6 ans... Au début, le garçon va tenir son rôle. Il pourrait se relâcher le soir dans la caravane qui servait de logement à Urbain. Mais fatalement, le naturel du garçon va revenir. Urbain va un temps amadouer ses congénères en expliquant que son robot a été endommagé lors de l'extinction massive et qu'il avait tant bien que mal réussi à le rafistoler. De plus, son statut de médecin va l'aider à s'intégrer et conduire ses camarades à être moins regardants. C'est toujours bon d'avoir quelqu'un avec ses compétences dans un groupe qui prône l'autarcie et qui, bizarrement, doit faire face à un nombre anormalement élevé de blessures, des coupures, des ecchymoses et même une fois une plaie qui ressemble étrangement à une blessure par balle. Urbain a vite appris que pour être tranquille, il ne fallait pas poser trop de questions. Bon, il n'est pas naïf. Il sait bien que pour subsister, les membres du groupe vont « chercher » entre guillemets de quoi remplir la marmite dans les environs. Et que les voisins ne sont pas totalement perméables à l'esprit de la communauté. D'où les divers stigmates à soigner. Voire même plus que ça. Un soir, un nouveau venu va se retrouver sur la table d'opération, le bras arraché lors d'une opération de chapardage de denrées dans un silo de stockage de grains. Le système de remplissage du silo s'est mis en route sans prévenir alors que le malheureux avait le bras à l'intérieur. Les corvées ingrates sont toujours attribuées au nouveau, une sorte de bizutage. Sauf que là... Le transport du pauvre homme a pris trop de temps et il aura perdu beaucoup de sang avant de rejoindre le médecin. Celui-ci ne pourra pas faire grand-chose dans ces conditions et malgré des efforts désespérés, l'homme dont il ne connaissait même pas le nom mourra. Au bout de quelques mois, Urbain arrive au bout de ses économies. Le peu d'argent avec lequel il était parti ne pouvait pas le faire tenir en cavale très longtemps. Il va en parler avec le chef de la communauté qui va lui proposer un marché. Et quel marché ? Karl, le chef de la communauté, a remarqué lui aussi que le placato d'Urbain est plus dégourdi que les autres et qui pourrait être bien utile pour leurs opérations de récupération de victuailles, comme c'est joliment dit. Vous imaginez bien qu'Urbain va refuser catégoriquement. Mais bon, il faut bien manger. Et Karl revient le voir quelques jours plus tard avec une offre qui laisse beaucoup moins de place à un refus. Un nouveau venu est allé voir Karl pour lui dire qu'il avait reconnu Urbain d'après son avis de recherche. Le marché est clair, soit Urbain et son robot les aident, ou alors il se pourrait qu'une patrouille de police passe dans le coin et lui tombe dessus. Plus le choix, le duo père-robot va devoir tremper dans la combine de Karl. La première expédition sera calme, relativement. Seul un fermier du coin va les menacer de loin avec son fusil. Les expéditions vont se succéder à un rythme soutenu. Le duo Urbain-Placato va faire des merveilles. L'ingéniosité d'Urbain, liée à l'agilité et à la débrouillardise d'Ézéchiel, vient à bout de tous les problèmes qu'ils peuvent rencontrer lors de leur sortie. La dangerosité va aller crescendo à mesure que les expéditions se succèdent. Karl devient de plus en plus exigeant et ne fait guère cas de leur sécurité. Les menaces lointaines des fermiers vont se transformer en balles qui ne sifflent pas loin des têtes. Urbain essaiera bien de se rebiffer, mais Karl va toujours agiter la même épée de Damoclès. Les vols vont bientôt ne plus se résumer à de la nourriture. Ce sera bientôt des métaux, des objets de valeur, des appareils électroniques. Jusqu'à cette nuit, où ils vont tenter d'explorer un entrepôt signalé par un éclaireur. Un bâtiment discret, mais très bien protégé. Détecteur de mouvement, sirène, projecteur, forcément une cible de choix. L'approche devra être discrète, et seul Ézéchiel en sera capable. Pour cette mission, il sera équipé d'une mini-caméra qui retransmettra en direct sur un écran devant Karl ce que le robot va découvrir dans l'entrepôt. Commence alors sa progression dans l'herbe haute qui entoure le bâtiment. Il se déplace en rampant, du moins autant que sa forme le lui permet. C'est fou toutes les capacités qu'Ézéchiel a su déployer depuis qu'il habite ce corps mécanique. Il a réussi à tirer parti du plein potentiel de son hôte, à croire que les modèles « normaux » entre guillemets sont bridés par une IA timide, à croire que cette dernière n'avait pas été développée entièrement au moment de la commercialisation du robot, ou que ses concepteurs avaient une idée derrière la tête. Toujours est-il que le robot avance à un bon rythme dans la végétation. Sauf que... arrivé à quelques mètres du bâtiment, l'herbe est remplacée par du gravier. Bah, la tuile. Vous avez déjà marché sur du gravier. Vous savez qu'il est impossible, ou presque, de s'y déplacer en silence. C'est pourtant ce que va devoir faire le placato. Va alors se dérouler l'intrusion la plus lente jamais observée. Le robot va marcher extrêmement lentement, à tel point qu'un guetteur, posté un peu plus loin, va dire que le robot est planté au milieu du parterre de gravier, en panne. Mais non, il se meut si lentement que de loin on ne perçoit quasiment aucun mouvement, et seule une observation prolongée permet de percevoir ce mouvement. Et parcourir le plus vite possible la zone, avec l'espoir de ne pas se faire repérer. Ah non, ça n'a pas marché. Des projecteurs à détecteur de mouvement autour le bâtiment. Et la lumière est le pire ennemi dans ce genre d'exercice. Non pas la lumière en elle-même, mais les conséquences induites du fait que cela fait de vous une cible bien tentante. Le robot parvient enfin au bout de la zone gravillonnée, en même temps que la patience des hommes qui attendent cachés dans les fourrés. Karl bouillait et avait déjà mis en garde Urbain deux fois, la troisième aurait été la dernière. Il ne finirait pas encore avec une balle dans la nuque. Pas encore. Ézéchiel est au pied du bâtiment, il va falloir y entrer maintenant. Bah, étonnamment, ça va être la partie la moins complexe de l'opération. Une fois à l'intérieur, le robot commence l'exploration, et ça va être court. Le bâtiment n'est constitué que d'une seule pièce, et cette pièce est occupée par un vaisseau spatial. Plus exactement, par une caricature de vaisseau spatial, une soucoupe volante. Elle mesure environ 15 mètres de diamètre pour 6 mètres de haut. Elle repose sur trois jambes, et comme le veut le cliché, elle est chromée. Au fil de l'évolution du robot autour de l'engin, la perplexité envahit les hommes penchés sur l'écran de contrôle. Qu'est-ce que ce truc fout là ? Et au fin fond de la campagne croate, ils sont tombés sur quoi ? Un repère d'extraterrestres ? L'équipe est partagée entre la méfiance et l'envie de savoir plus. C'est la curiosité qui va l'emporter. Karl demande à ce que le robot trouve le panneau de commande de l'alarme et la coupe. Il sait bien que ces hommes n'auront pas la discrétion et la patience du robot pour approcher le bâtiment. Le panneau est facilement trouvé et l'alarme neutralisée. Au signal du robot, les hommes se précipitent vers le hangar. Karl leur a bien dit de le faire discrètement, au cas où, mais peine perdue. C'est l'équivalent d'un troupeau de bovidés qui court en direction du bâtiment. Ézéchiel a commencé à ouvrir la grande porte quand les hommes arrivent. Excités, ils sont quand même impressionnés par l'engin. Ils n'osent avancer, ou alors timidement. Ce qui laisse le temps à Karl et Urbain de les rattraper. Eux aussi sont impressionnés, mais ils seront les premiers à apercevoir les faisceaux lumineux qui encadrent le vaisseau. Mais déjà, des hommes de main de Karl, le plus hardi, marchent vers la soucoupe et sans s'en rendre compte, va couper un des faisceaux. Il n'aura même pas conscience de ce qui lui arrivera. Par contre, les autres vont bien s'en rendre compte. Un léger sifflement, un éclair, et c'est la tête du coupeur de faisceau qui va tomber dans un bruit sourd. La découpe est tellement nette et fulgurante que son corps va encore faire un pas avant de s'effondrer. Il faudra quelques secondes à la troupe pour réaliser ce qui vient de se passer. Quelques secondes qui suffiront à voir un point rouge apparaître sur la poitrine de chacun d'eux. À partir de ce moment, c'est le sauve qui peut. Trop tard. Déjà, les premiers rayons laser touchent les moins rapides. L'étendue de l'effet d'Eddy rayon est effrayante. Un homme est coupé en deux verticalement, un autre à la cage thoracique qui explose. Deux des hommes se percutent dans leur fuite, ils seront touchés ensemble par un éclair qui va les faire exploser. Les fragments de leurs dépouilles vont se mêler dans un amas de chair déchirée et d'os broyés. Un autre sera pris dans un cône de lumière qui va le vaporiser, ne laissant de lui qu'une ombre projetée sur le sol. Un rond noir va apparaître sur le sol de l'entrepôt. Un des hommes dans sa fuite va marcher dessus et tomber dedans comme dans une trappe. Juste après, le rond disparaît. Un autre rayon va provoquer la combustion de trois hommes. Heureusement, leur supplice ne durera que quelques instants tant le feu qui les consume est intense. Karl va échapper à cette hécatombe en se servant d'un de ses hommes comme d'un bouclier humain. L'infortuné se fera trouer le crâne par un de ses rayons implacables. Karl, lui, court dans l'herbe haute comme un dératé et arrive à bonne distance ralentie pour contempler de loin l'entrepôt mortel. Erreur. La machine qui rampe à toute vitesse à sa poursuite n'en demandait pas tant. Lui ne verra les airs bouger qu'au dernier moment et hurlera de douleur quand elle lui broiera les jambes. Une fois tombé par terre, il verra beaucoup mieux cette machine. Et c'est un dernier hurlement d'horreur qui va sonner la fin du carnage. Le calme qui envahit la zone, qui quelques secondes auparavant résonnait comme un des cercles de l'enfer, est irréaliste. Comment la situation a pu virer au cauchemar de manière si fulgurante et retourner au silence aussi rapidement ? Urbain aimerait bien avoir l'explication. Il aimerait aussi savoir pourquoi il est le seul survivant. Dès le déchaînement des enfers dans l'entrepôt, il s'est jeté sur Ézéchiel pour le protéger en faisant barrière de son corps. Protection illusoire au vu de l'efficacité des armes déployées ici. Nul doute que s'il avait été visé, il ne serait plus de ce monde. Ézéchiel non plus. Mais donc, pourquoi ? Pour toute réponse, une trappe s'ouvre dans la partie basse de la soucoupe. Et rien. Personne n'en sort. Urbain et Ézéchiel se relèvent et se dirigent doucement vers l'ouverture. Ce dernier signifie qu'il entend une voix dans sa tête qui lui demande de monter à bord. Mais seulement lui. Et sans plus d'explications, il va vers la soucoupe. Sans répondre à la question de son père, ni sa mise en garde, et encore moins son injonction à s'arrêter. Urbain le suit jusqu'à la trappe, mais alors que le robot grimpe à bord du vaisseau, un point rouge apparaît sur sa poitrine. Au vu de ce qui vient de se passer quelques instants auparavant, il estime qu'il est plus sage de ne pas avancer, et il voit le Placato entrer docilement dans le vaisseau. Il va prudemment reculer de quelques mètres, histoire de ne pas tenter le sort et être la victime d'une nouvelle larme démentielle. C'est au bout d'une heure que le robot va ressortir comme si de rien n'était. Il va l'entraîner dans la soucoupe, Urbain restant sur ses gardes et guettant l'apparition d'un point rouge brillant sur son corps. Il va suivre Ézéchiel dans le vaisseau jusqu'au poste de pilotage, où un écran va s'allumer sur un visage humain. Visage qui va expliquer le fin mot de l'histoire. La soucoupe en question est l'œuvre d'un homme, Prosper Vorbarian, inventeur de génie qui est né en 2556. Il a, entre autres, inventé un mode de propulsion révolutionnaire mais que personne ne comprend, et une intelligence artificielle, une vraie. Cette dernière l'a aidé à créer un système de voyage dans le temps, et là c'est Prosper qui ne sait pas comment ça marche. L'IA a toujours fait planer un voile de mystère à ce sujet. Prosper et l'IA, qui se fait appeler Ego, ont sillonné l'univers de long en large à la recherche d'artefacts originaux par goût de la collection et aussi pour le business. Faut bien vivre. C'était le rêve de Prosper. Sillonner tous les mondes connus et trouver la perle rare, la pépite qui serait le prochain joyau de sa collection. Il aurait été inspiré par les récits d'un certain Jules Verne. Ils ont agi de concert pendant près de 30 ans, jusqu'à ce qu'il y a 4 mois de ça, ils entendent parler d'une communauté située dans cette région et qui recueillerait des dissidents et leurs Placato. Et qu'en particulier un de ces robots présenterait des attitudes un peu communes. Urbain et Ézéchiel échangent un regard inquiet. Prosper, une fois le vaisseau à l'abri dans ce hangar, est parti à la rencontre de cette fameuse communauté, accompagné d'un Placato bénin pour pouvoir s'y intégrer sans éveiller les soupçons. Il comptait bien voir ce fameux robot hors norme, et pourquoi pas l'étudier, et si les circonstances le permettent, de repartir avec. Urbain est consterné. Lui qui pensait être passé sous les radars. Mais Prosper, il est où ? Depuis 3 mois, plus de nouvelles. Et les ressources d'Ego en dehors du vaisseau sont inexistantes. Il ne dispose que d'un capteur situé sous l'aisselle droite de Prosper, pour le suivre et veiller sur ses constantes. Capteur qui a cessé de fonctionner brutalement, laissant Ego dans le brouillard. Il ne pouvait donc qu'attendre un hypothétique retour du bonhomme. Urbain est au plus mal, il est pâle. Et si le malheureux à qui il a tenté de porter secours, c'était... Ego veut connaître la cause de son trouble. Urbain demande s'il peut voir un portrait de Prosper. Le nouveau visage qui s'affiche sur l'écran ne laisse aucun doute. C'est bien Prosper qui est mort devant lui malgré ses soins. Et étrangement, Ego ne semble pas tant affecté par la mort de son créateur. Urbain le saura plus tard, Prosper avait paramétré l'IA avec une empathie proche de zéro. Un silence pesant s'installe dans le poste de pilotage. Urbain se demande si Ego réfléchit, s'il doit le tuer pour n'avoir pas pu sauver Prosper. Les paroles suivantes vont un peu le déconcerter. L'IA a choisi son nouveau maître, si l'on peut dire, celui qui l'accompagnera dans les missions qu'il entreprendra tout en respectant les ordres dictés par Prosper. L'IA sera en quelque sorte l'exécuteur testamentaire de son premier maître et créateur. À la phrase « Je remets entre vos mains mon existence et l'intégrité de ce vaisseau, prenez un soin et faites rayonner l'esprit de Prosper Vorbarian au fil de vos quêtes. » Qu'il en soit ainsi. Urbain s'éclaircit la gorge, mais avant qu'il n'ait pu dire le moindre mot, Ego le coupe dans son élan. « Pas vous. Lui. Lui. Le robot. » L'homme se sent un peu seul et un peu idiot. Mais pourquoi le robot ? Il se trouve que quand Ézéchiel est rentré seul, il a pu discuter avec l'IA. Cette dernière avait perçu la particularité du robot dès son entrée dans le hangar et avait décidé de l'épargner. Le comportement de l'homme qui s'est précipité pour le sauver du massacre l'avait intrigué. et voulant en savoir plus, l'avait lui aussi laissé en vie. Ézéchiel lui a donc raconté toute son histoire. Et l'IA a donc choisi le petit robot pour continuer sa mission. Ce dernier accepte la charge qui lui est confiée à une condition, que son père les accompagne. Pour Urbain, c'est un grand moment de solitude. Et si jamais il venait ergoter sur son statut d'humain de compagnie, Ego pourrait livrer à la police. L'IA avait accès au réseau d'information et avait épluché toutes les infos au sujet d'Urbain Lazare. Et c'était pas joli. Urbain, résigné, accepte le deal conclu sans lui. Pas vraiment le choix. C'est ainsi qu'Ézéchiel et son père vont découvrir un nouveau monde fait de voyages spatiaux et ou temporels. Ils vont être initiés au business des reliques précieuses, des objets témoins d'époques passées ou futures bien souvent tourmentés. Au fil des ans, l'équipage de la soucoupe va se faire une jolie réputation dans le domaine. La combinaison IA, robot et humain va prouver son efficacité et sa complémentarité. Mais toutes les bonnes choses ont une fin. Et lors d'une opération de récupération d'un robot, le trio va faire la rencontre d'un concurrent un poil expéditif. Certes, le milieu n'est pas reconnu pour sa diplomatie, son haut niveau d'élégance, mais il y a un code de conduite. On peut tricher, être flou avec le concept des propriétés, faire de petites entourloupes, mais jamais on ne s'en prend physiquement à un concurrent. Celui-ci va transgresser cette dernière règle en éperonnant le vaisseau d'Ego, alors qu'Urbain et son fils sont sur le terrain à négocier le robot qu'ils convoitent. Le père et son fils arrivent à temps pour faire cesser l'assaut, mais les dégâts sont trop importants. Ego est condamné. Ils vont bien tenter de transférer l'IA, mais Prosper n'avait pas prévu ce cas de figure, et elle va rester prisonnière de l'engin. La mort dans l'âme, le duo père et fils doit faire ses adieux à celui qui les aura permis de découvrir un monde sans frontières et sans personne à leur trousse. Un monde où ils auront pu vivre comme ils l'entendaient, sans devoir fuir à chaque fois qu'on les reconnaîtrait. L'espace et le temps ont cette capacité à vous permettre de vous refaire une vie. Ego va leur demander une dernière faveur, le remorquer sur une trajectoire qui va l'emmener plein pot vers le cœur du soleil. L'IA ne voulait pas se voir mourir à petit feu. C'est étonnant comme elle avait quand même réussi à devenir humaine au contact d'Urbain et du robot. Le père et le fils vont accompagner aussi loin que cela leur sera possible la soucoupe dans son dernier voyage, et ils promettront de perpétuer l'esprit de Prosper. Ce qu'ils feront pendant près de 10 ans, avec parfois quelques péripéties. Comme celle qui conduira Ézéchiel à se retrouver blotti dans le coin d'un atelier de menuiserie au fin fond de la Bretagne des années 1930. Et ce sera à mon tour de les rejoindre pour être initié à cette vie palpitante de chercheur d'artefacts au fil des planètes et des siècles. Et si vous vous posiez la question, oui, j'ai vite su les tenants et les aboutissants de leur histoire. C'était le contrat établi au début de notre collaboration, je devais savoir où je posais les pieds. Urbain avait beaucoup réfléchi à ce qu'il avait fait subir à ces deux pauvres garçons pour que le sien puisse survivre. Il n'en était pas fier, et il devait vivre avec le poids de cette culpabilité jusqu'à la fin de ses jours. Lorsqu'Ézéchiel lui avait été volé, il avait pu éprouver ce sentiment de terreur de voir son enfant lui être soustrait sans pouvoir faire quoi que ce soit. Ce sentiment d'impuissance dans ce rôle de protecteur l'a beaucoup remué, et il a décidé d'expier ses fautes en l'assumant pleinement. Ce qui lui coûtera cher. Just a little taste of it. This could be the end.
Thank you.